retourne.
Même si ses répliques sont seules.
Coupez.
Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes, d'ici, d'aujourd'hui, de demain. Bonjour et bienvenue. Silence, on est mercredi et le mercredi, on va au cinéma. Alors, on ouvre grand ses oreilles parce que moi, je vais au cinéma pour vous, parfois, souvent, et je rencontre des réalisateurs ou des professionnels du milieu. Et là, eh ben, écoutez, en avant-première, grâce à l'Omnia, bien sûr, notre cinéma partenaire, notre salle partenaire à Rouen, j'ai rencontré François Ruffin qui nous a présenté Je veux du soleil, un super beau titre, n'est-ce pas? Je veux du soleil. C'est un film qui donne envie et qui nous présente plein de bonnes choses. Il est au cœur de l'actualité, alors ça donnait très envie d'aller le voir. Et j'ai plein de choses à vous dire sur le sujet. Alors comme nous étions, puisque Ruffin attire quand même les foules, nous étions nombreux journalistes. Vous allez avoir dans mes sons que je vous ai rapportés, vous allez avoir des questions qui ont été posées, puis parfois on les entend par mes collègues journalistes. Alors ici il y a BFM, ici il y a Paris Normandie, ici il y a France Bleu. J'ai tout gardé volontairement parce que c'était un moment assez rare et c'est intéressant d'avoir ce mélange. Et puis nous n'avons pas pu tous poser toutes nos questions. Moi je n'ai pu en poser que deux puisque nous n'avons eu que 20 minutes pour cette journaliste. Ce qui donnait un petit peu le là de la rencontre. Alors avant de... Je ne peux pas vous passer la bande-annonce, puisque la bande-annonce n'a pas encore été créée. Le film était présenté tout frais, il y a une quinzaine de jours, tout frais en sortant du labo, mais il n'est pas encore... la bande-annonce n'est pas encore faite et n'est pas encore disponible. Il sera à l'affiche le 3 avril. Pour l'instant, la première question qu'a posée une de nos consoeurs, c'est... alors, est-ce que vous êtes revenu à vos premiers amours avec ce film-là? Puisqu'en effet, Ruffin, il faut le rappeler quand même, il était reporter, il était journaliste, il était rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Fakir. Il est également intervenu dans le monde diplomatique. Il était également dans un magazine qui était critique par rapport aux médias. Donc il est dedans, dehors. C'est intéressant d'avoir cette position-là. Et puis, un tout petit détail qui n'en est pas un, et d'ailleurs on vous en fera profiter tout à l'heure, il a eu le César aussi du meilleur documentaire en 2017 pour Merci Patron, qui a vraiment réuni et professionnels et publics, ce qui est assez rare et qui doit être noté. En tous les cas, on commence à écouter le premier son et d'avance, je m'excuse à la fois auprès de Mosquito qui souffre quand je lui amène des sons d'une qualité extrêmement reprochable, et c'est le cas de ceci, puisque comme il y avait beaucoup de monde, il parlait trop fort et je n'ai pas réussi à désaturer les sons. Préparez vos oreilles, on l'entend quand même, le son n'est pas le plus agréable. Et j'ai fait mieux, je ferai mieux.
Moi j'ai cessé d'être reporter et quand j'ai vu arriver le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose dont je rêvais depuis 20 ans, à savoir que les gens que jusque-là je croisais dans le secret de leur appartement, qui chuchotaient, il fallait pas qu'ils soient reconnus dans leur village, il fallait pas qu'ils soient reconnus dans leur quartier, et donc ils disaient avec honte leur frigo peu rempli, leur fin de mois ou leur début de mois même difficile, leurs agios, le fait qu'ils ne puissent pas mettre leurs enfants au centre, ils le disaient avec peine, avec honte. Et là, j'ai vu avec le mouvement des Gilets jaunes comment les hontes privées pouvaient se rassembler et devenir une colère publique. Et donc dans ce moment-là, qui est un moment de libération de la parole, qui est un moment rare dans notre histoire, où les gens qui d'habitude sont invisibles surgissent sur les ronds-points, revêtent un gilet jaune pour se rendre hyper visible, même fluorescent jusque dans la nuit, eh bien, je tenais à ce qu'on garde une mémoire de ce moment-là. Et donc moi, je prévoyais juste d'en faire un livre au départ, et Gilles m'a proposé d'en faire un film, et donc on s'est lancé dans cette aventure, et je pense qu'on garde une trace de ce moment de notre histoire.
C'est donc d'abord une volonté, on le comprend. Alors, il n'a pas vraiment répondu à la question de notre consoeur, mais il a répondu à sa démarche. C'est d'abord une volonté, une envie d'aller rencontrer les publics et puis de voir, en effet, qui étaient ces gens sur les ronds-points. Qui sont ces gilets jaunes sur les ronds-points? Après, on va pouvoir aller plus loin dans cette réflexion-là et puis voir justement qu'est-ce que c'est que de faire un film de cinéma. Je reprécise, puisqu'il était reporter journaliste, à un moment donné, comment est-ce qu'on est ou réalisateur ou journaliste? Un journaliste doit donner une parole et puis ne pas prendre parti, être objectif. Un réalisateur prend parti, mais comment est-ce qu'il prend parti? Avec quels moyens? Et précisément, quand on fait du cinéma, on laisse quand même la place, normalement, au spectateur, à moins de vouloir faire un film de propagande. La question se pose vraiment, hein, avec ce film-là, et dans quel état on le fait? En tous les cas, justement, l'une des façons, l'un des moyens de répondre à cette question, c'est en passant par l'écriture. Qu'est-ce qu'on écrit et comment on l'écrit ? Les documentaires s'écrivent. Alors j'ai envie de dire tous, j'allais dire tous, mais là j'ai posé la question à Ruffin, et parce que justement l'état d'urgence nous a tous étonnés. Hein. Comment ça s'est passé au niveau de l'écriture ? On lui pose la question. Je reviens sur la qualité du son. On entend, on se croirait sur le marché, je sais pas si vous avez remarqué, on se croirait sur le marché où on entend les uns et les autres, je veux mes patates et je veux mes machins. C'est un peu ce qu'on va rencontrer à Cannes quand on est juste en sortant de salle avec tous les bruits qu'il y a partout. Et puis je vous parle de Cannes parce qu'on en reparlera encore et évidemment, j'emmène des apprentis reporters à Cannes pendant quelques jours. On va passer un moment à découvrir et le métier de journaliste, et le Festival de Cannes, et des films qu'on vous rapportera de là-bas. Bref, on revient à Ruffin. Et alors, combien de temps vous avez mis pour écrire ce film ?
Pour le film, vous n'avez pas eu beaucoup de temps. C'est un peu fait dans la précipitation, on peut dire ça ou pas alors, du tout ? Parce que du coup, vous l'avez écrit, pas écrit
Non, mais j'écris jamais rien. Moi, pour les films, on ne va pas écrire un film. On ne sait pas ce qui va devenir. L'objectif, c'est que ça soit...
Ça s'écrit, un documentaire.
Non, justement, il ne faut pas l'écrire. Vous savez, pour moi, c'est un film d'amour. C'est un film d'amour des gens. Et c'est un film d'aventure. C'est-à-dire qu'à chacun des ronds-points qu'on visite avec Gilles, on ne savait pas ce qui se passerait. On ne savait pas ce qui adviendrait. C'est comme une espèce de paquet surprise qu'on ouvrait, et d'un seul coup, il surgissait quelqu'un qui survit grâce au lotokin. Quelqu'un qui a un Père Noël, gilet jaune. Quelqu'un qui galère pour nourrir ses enfants. Il y avait tout ça qui surgissait rond-point après rond-point, et on ne savait pas du tout ce qui adviendrait. Donc il s'agit surtout de ne pas écrire un documentaire.
Alors il faut s'appeler Ruffin pour ne pas écrire un documentaire et pour pouvoir trouver un producteur et un distributeur, hein, il faut le préciser, parce que sinon vous faites hurler tous les producteurs, puisqu'en fait pour défendre un film, il faut qu'ils aient un projet écrit, qu'ils puissent rentrer en adéquation avec la volonté du réalisateur, qu'ils puissent la comprendre, et puis pour qu'ils puissent aller chercher des financements aussi, donc un distributeur pour le cinéma ou un diffuseur télé, et ça on n'a pas le choix, il faut les écrire et on passe par des commissions, et ça prend beaucoup de temps, puisque je vous ai souvent parlé de Normandie Images, qui fait partie de ces structures qui donnent de l'argent, enfin qui redistribue des subventions par le biais de commissions de professionnels de cinéma, et donc ça passe par des dossiers écrits. Alors évidemment, on n'écrit pas tout, c'est vrai, on ne peut pas tout écrire, puisqu'un documentaire, c'est du cinéma du réel, donc de quelque chose qui va se passer, et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais on a souvent quand même une vague idée. Et puis je vous propose de faire l'expérience. Vous partez filmer avec votre petit téléphone, vous filmez un repas de famille, donc filmez. Et puis vous faites donc un film de famille, vous ne savez pas ce que vous allez trouver, et puis vous montrez les images que vous aurez. Et puis sinon, vous allez vous dire, tiens, je vais filmer dans ce repas de famille, je sais qu'il y a toujours des moments où, je sais pas, mon frère et ma sœur reparlent de l'enfance, et bien je veux filmer l'enfance à travers la famille. Donc j'ai une vague idée de là où je veux aller, je sais que ce qui m'intéresse, c'est le sujet de la famille, du souvenir abordé par mon frère et ma sœur. Et regardez ce que vous filmez et quelles sont les différences. Voilà, c'est un petit exercice. La question suivante, c'était donc, pourquoi j'insiste, c'était pour justement, qu'est-ce que c'est que le cinéma ? En fait, quand on fait un film, on ne fait pas que filmer des personnes. Et là, en l'occurrence, on a un petit peu... une espèce de collier de perles, j'ai envie de dire, de très belles personnes d'ailleurs, hein, de très belles personnes qui sont sur les ronds-points, qu'il a rencontrées, que Ruffin et puis Gilles Perret ont rencontrées sur les ronds-points dans le Nord, en Ardèche, voilà, ils sont un petit peu promenés partout, mais... Je lui ai posé la question des hors-champs, des contre-champs et du cinéma du réel. Qu'est-ce que c'est que le cinéma du réel ? Moi, je n'ai pas eu le sentiment de voir un film qui pourrait être identifié comme tel.
Il n'y a pas le cinéma du réel.
Non.
C'est pas le cinéma du réel.
Vous êtes
vas-y. On est que dans le réel, je suis désolé, mais à quel contre-champ vous vous attendiez ? Non, en fait, nous, c'est un film qui est à la rencontre des Gilets jaunes. Donc, je crois qu'il y a François qui est en amorce, qui est passeur de parole, mais je crois que justement, on est vraiment dans le réel. Et si là, on n'est pas dans la réalité des gens, alors je ne sais pas ce que c'est le cinéma du réel. Une séquence comme une des séquences les plus marquantes avec la dame handicapée à qui on donne 4 minutes dans un film au cinéma, trouvez-moi autre chose que cinéma du réel de cette force-là, vous n'en trouverez pas. Donc je pense qu'au contraire, on est vraiment dans le cinéma du réel.
Mais pourquoi le film peut se faire en 6 jours ? Pourquoi il peut être monté en un mois ?
Ce que je voudrais dire,
vas-y Cécile.
C'est un film qui garde la mémoire, c'est ça le cinéma, c'est un film qui garde la mémoire.
Cécile qui est notre monteur. Donc Pourquoi on peut faire un film en 6 jours de tournage,
bah oui,
en un mois de montage, et le diffuser aussitôt après, ce qui en effet est rare dans le cinéma. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on s'inscrit dans le cadre d'un mouvement. Un mouvement, c'est un temps d'accélération de l'histoire. C'est un temps de libération de la parole. C'est un temps où tout va plus vite.
Alors on entend la monteuse et c'est très bien, j'ai essayé après, j'ai voulu qu'elle vienne me parler à mon micro mais elle n'avait manifestement pas apprécié mon intervention donc elle n'a pas répondu à mes 5 appels. Elle est allée dans la salle et n'a pas voulu venir me parler. Mais un film qui garde la mémoire, bah encore une fois, un film de famille, ça peut être un film qui garde la mémoire, en effet. Mais qu'est-ce que c'est qu'un film et qu'est-ce que c'est que le cinéma du réel? Comment est-ce qu'on rend compte et quelle place on laisse au spectateur? Est-ce que c'est pas un peu au spectateur de respirer et de prendre sa position? Est-ce qu'on est obligé de lui imposer un point de vue? Et si on lui impose un point de vue, quelle est la limite avec le film de propagande? J'ai envie de vous poser ces questions et de vous laisser, mes très chers auditeurs HDRiens, vous les poser ou trouver une piste de réponse, ça serait même l'idéal. Dans les questions qui ont été posées également à, par nos confrères à François Ruffin, c'est sur la position des uns et des autres. On va y arriver progressivement. Ils sont un petit peu tous gentils dans le film. Et comment est-ce qu'on construit un film? Bah écoutez, on le laisse répondre.
Je pense que dans un film, il faut toujours un méchant. Et là, on a le grand méchant président. Donc ça tombe bien. Mais il faut un méchant pour faire fonctionner le film. Et par ailleurs, il y a une phrase qui est inscrite au début du générique, qui est une phrase de Victor Hugo. C'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. Et là, si vous voulez, à traverser les ronds-points les uns après les autres, et à montrer les gens qui sont dans la galère, qui peinent, qui sont en intérim, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, ou alors qui fouillent les poubelles, même, on tendrait à penser que finalement la pauvreté est une fatalité. Et les archives sont là pour nous rappeler que nous sommes dans un pays riche, qui n'a jamais été aussi riche, et où des gens sont très riches, et où il n'y a jamais eu autant de gens riches. Donc se pose la question de la répartition. Je dirais qu'en effet, les archives sont ce temps politique qui font nous demander pour qui on fait la société. Est-ce qu'on fait la société que seulement pour les 1% de tout en haut, ou bien on les fait aussi pour les gilets jaunes qui se trouvent sur les ronds-points?
En les incarnant comme ça, vous décidez de leur, entre guillemets, rendre justice, les rendre visibles alors qu'ils n'ont pas été assez de votre point de vue?
Non, mais oui, je pense que... En tout cas, vous savez, il y a un sondage qui vient de... Enfin, c'est pas un sondage, une étude rendue par le CSA, donc ce qui est plus officiel en termes de médias, qui montre que 88% du temps de parole dans les médias est accaparé par les classes supérieures, par les CSP+. C'est-à-dire qu'il reste 12% pour les chômeurs, les retraités, les ouvriers, les employés, pour la vaste majorité du pays. Donc évidemment, dans ce moment-là où on a des gens qui arrivent à surgir sur les ronds-points et qui ont aussi un peu surgi sur les plateaux de télévision, mais on peut craindre que la marée redescende très vite et qu'on les exclue très vite des plateaux de télévision, les intérimaires, les camionneurs, les auxiliaires de vie sociale qu'on a pu un peu voir. Eh bien, nous les donnons à voir sur leur rond-point, mais nous les donnons à voir aussi chez eux. C'est-à-dire en leur donnant 9 minutes pour Cindy dans un film de cinéma, en 4:3, sur grand écran. Et nous, nous prétendons faire de l'art. C'est-à-dire que l'art doit... Il n'y a pas que les grands personnages qui ont le droit d'accéder à l'art. Aussi, les gens ordinaires, là, paf, on vient les mettre dans un documentaire qui relève pour nous de l'art.
Alors, on est bien d'accord avec ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il y a énormément de films extraordinaires qui ont été faits sur le public qu'il dit concerné. Hein, on pense au Brisé, on pense à Ressources humaines de Cantet. Le Brisé, je pensais à ce film merveilleux avec Vincent Lindon, là, qui avait remporté, je ne sais plus quel prix à Cannes, mais extraordinaire, qui était vraiment merveilleux, il y a 3 ans. On pense au Ken Loach, on pense au Mike Lee, enfin les films sociaux, qui sont parfois d'ailleurs à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, il y en a plein, et qui rendent hommage, heureusement, aux vrais gens. Il y en a plein, on n'est pas que dans un monde de riches. Après, il parle des médias et puis donc de la place que l'on laisse aux médias, mais là on est dans le cinéma. Alors donc, je voudrais revenir à cette question-là, qu'est-ce que c'est que le cinéma? Et non, on ne fait pas un film en 6 jours quand on ne s'appelle pas Monsieur Ruffin. Je tiens quand même à souligner ça, on ne vend pas un film en 6 jours. Je voulais également m'arrêter sur Merci Patron. Est-ce que je le passe maintenant et que peut-être on va passer la bande-annonce maintenant et probablement que de temps en temps, moi j'ai la bande-annonce aussi sous mes yeux, je vous proposerai de vous arrêter parce que ça n'a rien à voir. C'est pour ça aussi que je suis un peu remontée sur ce film-là. Je veux du soleil, parce que je veux du soleil. J'ai vraiment l'impression d'un sac fourre-tout, vite fait, pas pensé. L'enthousiasme est très bon, mais on a le sentiment, j'ai eu le sentiment d'un tract politique et d'un film qui est un film de propagande. Encore une fois, un film de propagande, c'est pas forcément un film de propagande de droite et qui diffuse des mauvaises informations, mais c'est un film qui donne une idée, qui impose une idée, qui ferme, qui impose un point de vue, et donc qui n'ouvre pas, ne laisse pas la possibilité au spectateur de penser autre chose. Bref, on le manipule. C'est un peu le risque de l'image, toujours, hein, c'est que c'est facile de manipuler quand on ne montre qu'un côté, quand on ne montre que ce qu'il y a en face de nous, et quand je parle de contre-champ, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Quand je parle de hors-champ, c'est ce qu'il y a indépendamment. Donc, par exemple, merci patron, je vais pouvoir vous le découper un petit peu de temps en temps. Je me permettrai de prendre la parole sur la bande-annonce. On la lance ? Merci Nico.
La une, la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge.
Ça suffit, ces gens sont des parasites.
Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises.
Vous avez quand même supprimé combien ? 8000 emplois ? Mm-hmm.
Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu, Bernard.
Ah bah, je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui.
Nous, on est des pions. On a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant.
Quand les stars, elles changent.
Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini.
Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici?
Rien. Je le regarde, c'est ça la preuve.
Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois?
On mange pas.
Eh bien, on va se faire vos porte-parole.
Bonjour. On aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, accrochez.
Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Romain Desbois?
Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres.
On va aller leur défoncer, leur hacher. On va arrêter, là. Allez faire les danseuses.
Vous êtes de la part de Bernard Arnault?
Oui, je travaille chez LVMH.
Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris.
Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage.
Là, je n'ai plus rien à perdre. Non.
C'est nous qu'on sera les PDG.
Allez Bernard,
et puis raquettez bien les PDG alors. PDG.
Alors sur cette bande-annonce, on voit évidemment plein d'images de télévision, le contre-champ, on pourrait dire que c'est ça, hein, puisqu'il montre des personnes, des ouvriers qui sont en difficulté, qui vont perdre leur emploi notamment. Et puis de l'autre côté, il montre toute une vie bien active et bien riche, hein, ce qu'il dénonce tout le temps. Hein, puis ça c'est très bien, voilà, c'est tout à fait louable. Et il a une façon également de le montrer dans l'image. C'est bien à ça que je veux en venir, hein, c'est à quoi ça sert? Il montre à la fois ses portraits, mais il les remet dans leur environnement. Donc en fait, il nous laisse la possibilité de penser nous-mêmes, spectateurs, au film qu'on est en train de regarder, et puis de nous faire notre propre idée sur ces portraits qui sont filmés. Il se promène dans la ville et pareil, on a ce qu'on appelle, là par exemple je suis sur un plan large, sur ce plan large, on est dans l'usine, dans les c'est pas les locaux parce qu'on n'est pas à l'intérieur, mais on est dans l'anse de l'usine et on a les locaux, d'ailleurs portes fermées, il a plu, ça aussi ça raconte, c'est-à-dire que puisqu'il a plu et que c'est pas très ensoleillé et pas très vivant, ben on est plus dans quelque chose de tristoun. C'est un parti pris, mais il ne se passe que ça, c'est que l'image qui vit par elle-même. Il n'y a personne qui vient nous dire quoi penser, à part le réalisateur qui nous a montré cette image, en effet un peu tristoun, c'est pas très gai, les gens ne sont pas en train de danser, il n'y a personne d'ailleurs, il n'y a pas d'être humain, puisqu'effectivement on est en train de parler d'une usine qui va fermer, d'emplois qui vont se perdre. On est dans un sens. J'espère que j'arrive à me faire comprendre et à être clair, parce que je ne voudrais pas qu'on confonde le fond et la forme. Le fond ne me regarde pas, il dit ce qu'il veut. Et je n'ai pas à le juger. Je ne suis pas là pour dire si oui ou non M. Ruffin a raison dans ses propos politiques. C'est pas mon sujet. Moi, je fais une émission sur le cinéma. Et quand il me dit que « Je veux du soleil » est un film d'art, je trouve que d'utiliser le public et de le manipuler, c'est choquant. La question lui a été posée ensuite par une autre consoeur de Paris-Normandie. Mais je la laisse, j'ai gardé la question.
En étant allé aussi vite, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir des regrets à un moment ou à un autre après
Franchement, j'ai plein de regrets dans ma vie, mais je pense que j'en aurai pas sur ce film. Non, je veux dire, de toute façon, le seul truc, ça aurait été de pouvoir libérer davantage de temps pour faire le tournage. Mais déjà, je veux dire, on a eu, faut voir que si c'est possible, c'est parce que nous avons eu une chance immense. Nous avons eu la chance de faire ce film au bon moment, c'est-à-dire au moment où il y avait des ronds-points qui étaient occupés. Et le gouvernement s'est appliqué à détruire ces ronds-points, ce qui est une catastrophe. Ce qui est une catastrophe parce que c'était le mode de protestation le plus pacifique qui existait. Les gens mettent des cabanes, c'est enfantin, c'est naïf. Ils mettaient ça sur les ronds-points, ils distribuaient des tracts, il n'y a rien de plus pacifique. C'était un endroit où se retissait le lien social. Et le gouvernement a fait le choix de détruire le lieu où se reconstruit le lien. Il n'est plus question après ça que les ministres, les sociologues, les philosophes en cours, les éditorialistes viennent nous parler de retisser le lien social. Ils ont détruit le lieu où il existait. Et donc nous, nous sommes arrivés dans ce moment où encore il y avait des ronds-points. Et au fur et à mesure qu'on passait, on voyait bien qu'ils étaient détruits par derrière ou juste avant notre passage qu'ils étaient reconstruits, qu'il y avait encore une volonté populaire. Donc nous avons été dans ce moment-là où il y avait... Et donc voilà, donc nous avons recueilli ça. Donc nous avons eu beaucoup de chance sur le moment du tournage et ensuite on a eu beaucoup de chance sur tout le reste. Quoi. La scène finale par exemple, c'est vrai qu'il y a des gens qui croient qu'on a été chercher Marie d'avance et qu'on savait qu'elle savait chanter et tout ça. Mais non, on est tombé dessus et même on ne comptait pas aller sur la plage avec elle, on a eu un remords, on l'a entraîné. Bon, c'est un film qui s'est fait aussi avec beaucoup de chance.
D'ailleurs, le titre du film, il arrive à ce moment-là.
Ouais.
Je crois qu'on aurait des regrets si on avait l'impression de ne pas avoir fait un film. Et là, ce sera à vous de donner votre avis, mais nous, pour nous, le film il est là. Quoi. Et donc, il n'y a aucun regret parce que je pense que vous allez rire, vous allez pleurer, vous êtes dans l'émotion, il va y avoir du suspense, vous allez rencontrer des gens formidables. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir de regrets parce qu'il y a un film. Quoi.
Merci Gilles Perret de quand même répondre à la question, puisque la question, je la repose, est-ce que vous n'aurez pas de regret d'avoir eu aussi peu de temps, d'avoir fait un film en si peu de temps? Il me semble, moi, dans ce que j'ai entendu, que François Ruffin n'a pas répondu à la question. Gilles Perret un petit peu plus, mais c'eût été intéressant de savoir quelles ont été les contraintes de travailler dans un temps aussi court. Et par rapport au regard et donc par rapport au recul que l'on peut avoir sur son propre sujet et par rapport à ce qu'ils auraient souhaité. Mais en fait, on se demande s'ils ont souhaité quelque chose au départ puisqu'ils sont partis juste pour filmer des gens. Ce qui est très bien parce que les gens sont très beaux, j'insiste encore une fois. Hein. Justement, tiens d'ailleurs, on arrive au choix des décors. Comment ça s'est posé puisqu'on fait un film en un temps record comme ça, si court? Comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'ils ont fait concrètement pour choisir? Alors, ils ne choisissent pas les personnes, bien sûr. Hein. Il le dit très bien. Quand on fait un documentaire, on ne sait pas qui on va rencontrer. Et on croit rencontrer quelqu'un, puis sur place, finalement, on rencontre quelqu'un d'autre. C'est ça, le documentaire. Hein. C'est ça aussi. C'est cette réalité-là, heureusement. Mais on choisit des endroits où on va. C'est-à-dire que s'il va... et d'ailleurs, je ne sais pas comment sont les ronds-points. J'ai passé quelques jours à Tours, là. À Tours, il n'y avait pas de gilets jaunes dans les rues samedi, quand je suis partie. Mais quand je suis arrivée à Rouen, eh ben, ils étaient encore là, partout. Et les gilets jaunes, et ils m'empêchaient d'ailleurs de rentrer chez moi. Ils bloquaient la ville. Les villes n'ont pas toutes la même énergie, n'ont pas toutes le même regard sur ce mouvement. Et donc, quelle ville ils ont choisi? Quel décor?
Un hasard un peu organisé. Non, je savais que quand on est en Picardie, on sait qu'on veut, quand on prend la bagnole, c'est pour descendre jusqu'à la plage dans le sud, quoi, en gros. Donc voilà, et puis ensuite, il y avait quand même, on est passé par Annecy, qui est le coin de Gilles. Moi, j'avais un copain en Ardèche, qui est Pierre Souchon, et puis on avait un copain dans le sud, qui est Guillaume Tricard. Donc ça, on avait des espèces de points de repère comme ça au milieu. Donc,
ouais, si vous regardez un peu, si vous tracez sur une carte notre road trip, c'est pas très logique. Mais en fait, il y avait beaucoup d'impôts. Beaucoup de débrouilles, mais quand même avec des points sur lesquels on pouvait s'appuyer, des points à peu près sûrs. Mais de temps en temps, on s'est pointé sur des ronds-points, vraiment à l'improviste. Quoi. Et la très très bonne surprise, c'est que sur le papier, en fait, on s'est dit, bon, François, il a l'étiquette député France Insoumise, moi j'arrive avec une caméra, donc on va se faire jeter. Et en fait, la super bonne surprise, c'est qu'on s'est jamais fait jeter. C'est-à-dire qu'il y a deux ronds-points où au début, il a fallu 30 secondes pour expliquer ce qu'on faisait, mais tout de suite, il y a les 10 personnes qui disaient, non, mais attends, Ruffin, c'est pas comme les autres, et puis et donc du coup on a été accueillis formidablement et ils nous ont ouvert les portes formidablement. Donc ça a été une super bonne surprise, parce que je crois que au-delà du fait du discours officiel des gilets jaunes, pas de politique, pas de syndicat, déjà d'avoir des gens qui venaient les voir, notamment un député, déjà rien que ça, il y avait déjà un minimum de reconnaissance. On ne peut pas dire qu'ils en aient eu beaucoup de reconnaissance avec toutes les saloperies qui ont été balancées sur les médias en général. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que dans 100% des ronds-points, on a été bien reçus. Et ça, franchement, sur le papier, c'était pas gagné.
Et ce qu'il faut ajouter peut-être aussi, puisque notamment dans le film un léger procès des médias est fait, c'est que nous, les autres journalistes, qui ne nous appelons pas François Ruffin, enfin moi je suis journaliste à part puisque je fais une petite émission gentille sur le cinéma donc tout le monde s'en fout, mais enfin mes confrères et consoeurs sont obligés de sortir avec des gardes du corps. Donc je sais pas, oui en effet, il le dit, hein, on a eu de la chance parce qu'on a reconnu Ruffin et qu'on s'est dit « Ah il est gentil lui, on peut lui parler et il va nous écouter, donc lui il a eu le droit de venir avec une caméra ». Ce n'est pas le cas de tout le monde et là ça pose quand même aussi question, puisque c'est malhonnête, le film ne rend pas compte de ça. Ou alors, on pose dès le départ, cela dit, pourquoi pas, puisqu'en effet, on voit Ruffin dans son véhicule qui traverse la France et qui va rencontrer les gens. C'est un film sur Ruffin qui va rencontrer des gens gentils. Pourquoi pas ? Mais c'est pas le propos qui est dit quand on vend le film. C'est vraiment de cela dont je parle. Hein. Et c'est aussi malhonnête, puisque finalement, c'est nous faire croire que tous les gilets jaunes sont gentils et qu'on est dans un monde des bisounours. Et d'ailleurs, j'ai posé la question. Ils sont un peu tous gentils, n'est-ce pas ?
Mais nous, on n'a pas la prétention de faire un film analytique sur le mouvement des gilets jaunes. On va à la rencontre des gilets jaunes avec un film fortement subjectif qui est fait par François Ruffin et Gilles Perret. Donc on sait qu'on s'intéresse plutôt à ces gens-là. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que des gentils sur les ronds-points ? Non. Mais est-ce qu'il n'y a que des gentils en France ? Non. Alors est-ce que parce qu'il n'y a pas que des gentils, il ne faut pas y aller ? Parce qu'à ce moment-là, on s'exclut de France et puis on s'exile. Et ce n'est pas le cas. Et sur les ronds-points, il y a une diversité d'opinions qui est la diversité qu'on trouve en France. Et donc nous, on a décidé d'y aller et de s'attacher aux gens qui nous paraissaient être attachants et d'en faire un film sur l'humanité et sur l'humanité de ces gens.
À ce titre, le film est réussi. Les personnages sont vraiment très très beaux. Ce sont de très très belles personnes, très émouvantes en effet, très touchantes. Et on les rencontre partout, pas que sur les ronds-points. On rencontre partout des belles personnes comme ça, ça fait du bien. À ce titre, en effet, là, Gilles Perret m'a donné une vraie réponse sur le film que lui, il est parti faire. Je reste sur ma position par rapport à ma place en tant que spectatrice, puisque on n'est que fermé sur eux. Mais à ce titre-là, quand même, au titre de « c'est un collier de perles de belles personnes qui sont sur les ronds-points et puis qui bravent le vent et le froid », oui, ça c'est vrai, c'est un film de beaux portraits de personnes qui ont envie enfin d'ouvrir leur bouche, quoi, qui ont enfin envie de s'exprimer et qui ne trouvaient pas de lieu d'expression. À ce titre, c'est fait. Maintenant, c'est quand même un petit peu un film, beaucoup, un film très politique, mais pas dans le sens des films que je vous ai cités et dans le sens des films que je vous citerai encore à la fin de cette émission, notamment Le silence des autres. Sur les choix, justement, sur les choix politiques, j'ai même envie de dire, on lui a encore posé une autre question.
Je pense que, le tournage, le montage, tout est politique. Mais la diffusion est politique. C'est le moment où on vient rendre un film aux gens. Donc c'est à ce moment-là que se fait de la politique. Je veux dire, c'est pas un film forcément engagé. Jamais on arrivait sur un rond-point en demandant pour qui vous avez voté. Vous voyez, parce qu'à la limite, c'est presque. Je trouvais que le rond-point était un moment de neutralisation partisane. Les gens, ils se disent apolitiques. En fait, ils sont apartisans. Et évidemment, le choix de venir diffuser le film très rapidement, dans un moment où le mouvement n'est pas encore mort, est un choix politique. On ne choisit pas d'arriver pour inscrire l'épitaphe sur la tombe à la fin du.
On ne choisit pas d'arriver pour inscrire une épitaphe sur les tombes des gens, pour dire de quel parti politique ils étaient, il a raison. Et puis effectivement, faire un film, surtout un film avec un tel sujet, c'est au départ un choix politique. Et diffuser un film comme ça, c'est également un choix politique. Et là, on peut remercier l'Omnia de toujours s'engager et de toujours diffuser des films qui ont en effet une portée politique pour permettre aux citoyens de s'y retrouver et d'échanger autour de sujets variés et très très citoyens. Il nous reste encore deux petits sons et je m'excuse encore parce que je vois bien que Mosquito souffre. Mais on a voulu comparer le travail qui était fait dans ce film-là, le comparer à la place des médias. Et puis la question en filigrane, c'était justement, est-ce que ce serait pas un petit peu un tract politique ce film-là ?
Je crois que franchement, on s'en fout de savoir comment ça va être jugé. Il faut que les gens déjà viennent voir le film et après on discute. S'ils trouvent des tirades politiques, ils sont capables de catégoriser, de savoir où on se situe sur l'échiquier politique, c'est leur problème. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens viennent le voir, après on discute et pas faire comme les éditorialistes qui ont passé des centaines d'heures à parler des gilets jaunes mais qui n'ont quand même jamais mis les pieds sur un seul rond-point. Donc là, maintenant, peu importe comment on va voir le film, mais je crois que les gens, en tout cas ceux qui sont venus le voir pour l'instant, ils voient un film, tant mieux, quoi.
Oui, en effet, pourquoi pas, c'est bien. Une fois qu'on a donné un film, qu'on a conçu un film, on le donne au public et puis il fait sa vie. Et pourquoi pas, d'accord. J'ai du mal à entendre cette réponse, puisqu'on a vraiment... Bon, pourquoi pas, voilà. La dernière question qui était posée, c'est qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce film et qu'est-ce qu'on vient faire avec ce film? C'est la question qui a été posée aux deux réalisateurs. Ils sont donc co-réalisateurs, hein, je rappelle, c'est François Ruffin et Gilles Perret.
Qu'est-ce qu'on vient faire avec ce film? On vient interpeller la société en lui disant est-ce que vous pouvez vraiment traiter de fascistes, d'antisémites, de casseurs, de tout ça. Cindy, Marie, Loïc, est-ce que finalement ceux qui peinent à vivre, non seulement ils doivent peiner à vivre, mais qu'ils doivent avoir le double stigmate d'être des méchants et d'être les pires de l'humanité, vous voyez ? Je pense que nous avons une fonction d'interpellation, une fonction d'interpellation de la société, une fonction d'interpellation du politique. Et moi, je la remplis. J'estime, à travers ce film, continuer à jouer mon rôle de porte-voix.
Ce que j'aime aussi, c'est que le cinéma, c'est toute cette variété-là. On va pouvoir trouver des films qui ont une plastique absolument irréprochable, des films qui sont plus maladroits, des films qui sont tellement engagés comme celui-ci, qu'ils sont d'un enthousiasme débordant et que finalement, ils n'ont pas du tout été canalisés, ils ont été faits dans une précipitation. Voilà, on va trouver des films qui sont de l'art brut. Et là, on en connaît des très anciens, par exemple des Agnès Varda, c'était de l'art brut, les premiers. Enfin, voilà, c'est bien, c'est le cinéma, c'est merveilleux. Et puis, si vous voulez aller voir deux autres films, dont l'un est politique sans lettres, mais ça l'est quand même, Jeune Bergère de Delphine Détry, et qui est pour le coup soutenue par la région Normandie. On aura l'occasion, ça serait intéressant, de rencontrer la réalisatrice, peut-être la productrice, Lucie Moreau, c'est Lux for Film, une société de production qui est locale. Ou peut-être même d'ailleurs d'aller interviewer les personnes qui ont fait en sorte que ce film existe à Normandie Images, pourquoi pas. En tous les cas, Jeune Bergère, c'est l'histoire d'une Parisienne qui est venue s'installer par chez nous dans la Manche, dans le Cotentin, je ne sais plus, qui est venue s'installer par chez nous, en tous les cas, en Normandie, et qui a décidé de s'occuper de ses moutons. Et qui, et c'est là que j'en viens sur le côté politique, qui s'est retrouvée confrontée à des heurts locaux, et qui a une forme de racisme local, et à des décisions politique quant au cheptel, en fait, combien de moutons on a, pourquoi, et où est-ce qu'on a le droit de les mettre, et quel type de moutons sont des choix qui étaient faits par les professionnels et qui sont très, 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 très encadrés. Alors, le film ne s'attarde pas que sur ça, c'est un petit clin d'œil, j'ai envie de dire, on a un aperçu sur cette vie-là, mais c'est surtout sur cette jeune femme qui bataille autant qu'elle peut. Et là, peut-être que je vais parler pendant la bande-annonce, vous m'en excuserez d'avance.
Mes parents à moi n'étaient pas fermiers. Et personne m'a légué de ferme ou de prairie ou de troupeau. J'ai dû emprunter de l'argent au début pour acheter tout moi-même. Je me rappelle du métro que je prenais tous les matins et du bureau gris dans lequel je bossais. Et j'ai pas du tout envie de retourner dans l'ancienne vie. Bernadette, il est là ? Un métier qui est différent à chaque saison et chaque journée est différente. Oh non ! J'ai pas de chef ou de directeur pour me dire quoi faire, c'est moi qui prends mes décisions, je suis complètement indépendante. Clairement, c'est de la malveillance dirigée contre moi, à mon avis. C'était vraiment pas une bonne année. Hein.
Pas sur le chiffre d'affaires, quoi.
Ça devient presque un bras de fer que j'ai pas du tout envie de laisser tomber. C'est comme si c'était l'autorisation qu'on peut pourrir la vie à des jeunes juste parce qu'on estime qu'ils n'ont pas le profil pour être agriculteurs.
J'ai tellement gagné en liberté.
Alors évidemment, c'est là une bande-annonce. Mais dans le film, on a toutes ces merveilleuses images de paysages, de moutons, de cette femme toute seule qui va ici se dépatouiller avec un petit mouton qui est tombé dans l'eau. Donc elle va le sauver et hop, il se trompe et il retourne dans l'eau. Et en fait, ces images prennent le temps d'être et de vivre. des images sans elle, parce qu'on pourrait dire qu'on est de parti pris quand, quand on ne fait que filmer sa solitude et ses difficultés juste d'être humain. C'est pas parce que c'est une femme, c'est juste une personne qui vit la difficulté de son métier. Mais on a aussi toutes ces étendues, tous ces beaux paysages qui existent par eux-mêmes, parce que la réalisatrice a fait le choix de nous montrer un vrai décor et une réalité dans un contexte. Et non pas d'être sans arrêt collée à cette jeune femme, à cette jeune bergère. Voilà, c'était un petit exemple et qui est un film doux, qui est beau. Vraiment, prenez le temps d'aller le voir. Et il est à la fois intrigant, doux, touchant. On prend vraiment le temps dans ce film-là. Voilà, ça c'est les petits mots. Et maintenant, pour finir sur un film qui est plus politique, bien sûr, puisqu'il nous parle de Franco. Et là, je vais prendre la parole tout au long, ne serait-ce que pour vous traduire, parce que ça parle en espagnol, et donc je vais faire la voix off. C'est Le silence des autres, produit par Almodovar.
Españoles.
Espagnol.
Franco.
Franco.
Ha muerto.
Est mort. En 75, l'Espagne sort de 40 ans de dictature. En 77, une loi d'amnistie est votée. Depuis 2010, Citoyens Association convoque une cour internationale pour briser ce pacte de l'oubli. J'ai même pas le temps de lire. On peut oublier, mais pas pardonner. On exige de nous le pardon. On a tout perdu. Il faudra se battre pour récupérer ce qu'on a perdu. Là, j'ai demandé à Mosquito de mettre sur pause parce qu'en fait, dans les images, il y a aussi des images de mise en scène, à savoir, il y a un petit personnage, comment ça s'appelle ? C'est un petit personnage de Lego qu'on fait passer sur une carte. On a des beaux portraits de personnes qui sont évidemment très touchantes puisqu'elles parlent d'un vécu assez dramatique. Et puis, de l'autre côté, on a des images qui nous montrent des manifestations, des images d'archives, des images de cette fameuse carte où on se balade sur le territoire espagnol. Et ce sont des partis pris de réalisateurs, mais qui nous laissent aussi respirer, qui nous laissent le temps de voir autre chose et de choisir nos propres émotions, en fait, et d'aller nous-mêmes en tirer des conclusions, j'ai envie de dire. Trois ans que la plainte a été déposée, on ne peut plus accepter que ça piétine. Le combat commence. Pour la première fois, une juridiction va entendre la voix des victimes. Et ça se passe à 10 000 km de notre pays. C'est l'affaire la plus importante de ma cour. Si quelqu'un veut témoigner, je l'écouterai. Il est possible que la plainte aboutisse en tout ou partie. En tout cas, un chemin s'ouvre à nous. Nous, avec des centaines de milliers de victimes, nous avons été privés de notre droit à la justice. Peut-être que nous tous, nous toutes, on a participé d'une certaine manière à ce silence. Le silence des autres. Un film de Almudena Carcedo et Robert Carr. Comme la vie est injuste. Pas la vie. Nous, les humains, nous sommes injustes. Le 13 février. Voilà, voilà, amis HDRiens, amis d'ici, amis qui allaient au cinéma, je ne peux que vous encourager à continuer à aller voir des bons films, à aller voir des mauvais films, à aller voir des films tout court, à aller faire votre avis et surtout à aller défendre votre avis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Après tout, un film peut être bon à l'intérieur et mauvais à l'extérieur et peut avoir des bons sujets et ne pas savoir les exprimer ou à savoir très très bien exprimer les choses mais ne n'avoir rien à dire, ça arrive aussi. Le plaisir, en tous les cas, il reste partagé dans une salle de cinéma. C'est un moment de communion qu'on essaye ici de vous faire approcher. Allez, à très bientôt. Passez une bonne semaine.
Silence.
Ça tourne. 26 répliques sont seules.
Coupé.